Dans la suite de la lettre aux Galatiens, nous entendons aujourd'hui l'histoire de Paul, son propre témoignage, tout simplement. Et je trouvais intéressant de recevoir cette parole assez personnellement, finalement, et de voir que nous entendons comment Dieu est venu le retourner, comment Dieu est venu dans sa vie. Tout simplement, c'est l'histoire d'un homme, en fait. Il est en train de nous dire, voilà, voilà ce que je faisais, voilà ce que Dieu a fait, et voilà ce que je fais maintenant. Et cet homme était passionné de Dieu. Quand il massacrait les chrétiens ou qu'il les mettait en prison, c'était pas. Voilà, c'est un zèle complètement fou, quoi. Il n'admettait pas qu'on puisse corrompre la doctrine de ses pères. Donc, je sais pas comment dire. Je sais pas si on peut dire que c'était une bonne cause, mais enfin. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est quelqu'un de passionné, qui n'est pas tiède. Le tiède, dit l'Apocalypse, Jésus le vomit. Et en fait, voilà comment Dieu accomplit sa volonté. Alors ça me fait penser, foi n'est pas coutume, ça me fait penser à l'introïte de ce 27e dimanche ordinaire. En grégorien, l'introïte, c'est « In voluntate tua domine ». Et donc la traduction, à peu près mot à mot, c'est « À ta volonté, Seigneur, tout est soumis, et il n'est personne qui puisse résister à ta volonté. » Alors cette première partie de l'introïte, comme vous l'avez peut-être entendu, musicalement c'est aussi vrai du reste, est encadrée par les deux mots. Enfin, le même mot, volonté. Voilà. Il y a la volonté au début et la volonté à la fin. C'est en mode shérif américain, quoi. Tu fais ce que je veux ou bien tu fais ce que je veux. Et tout est soumis et personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Et alors, la deuxième chose est intéressante. C'est toi qui as fait toutes choses, le ciel, la terre, tout ce qui se retrouve sous la voûte. Tu es le maître de l'univers. Alors, en latin. C'est pas tu es le maître de l'univers, c'est maître de l'univers, tu es. Alors, c'est pas une futilité, parce qu'en fait, cette deuxième partie de phrase commence par dire tu fais, et se finit par dire tu es. Dieu dit, et cela fut. On a donc dans cette introïte une idée de la toute-puissance de Dieu, qui fait contribuer toute chose à la fin qu'il a prévue. Et je trouve que c'est important dans nos vies. D'avoir cette vision que Dieu regarde plus loin que nous. Nous avons une vision à deux balles, on est complètement myope. Voilà. Alors, on a même la prétention de faire des projets, comme si on y voyait quelque chose, alors que Jacques dit lui-même devriez rajouter voilà, nous allons faire ça. Oui, ben, si Dieu veut, hein. Inch'Arab. Si Dieu veut, si le maître le veut. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. Donc il y a cette idée de toute puissance que je trouve très belle et qui nous éclaire aussi sur le mal dans le monde, hein, où on peut se dire, bon, ouais, voilà, il se passe des trucs quand même, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, hein. Saint Augustin en parle. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit, de savoir que si je puis m'exprimer ainsi, tout finira bien. Bon, à condition qu'on ait choisi le bon côté, mais le mal n'aura pas le dernier mot. Je crois que c'est très important pour nous de savoir ça. Ni la souffrance du reste. Donc voilà, nous avons, je trouve, intéressant de regarder en toute simplicité, vous voyez, c'est pas très fut-fut, mon truc, c'est pas très théologique, hein. Voilà, écouter cette histoire et se dire, mais au fond, c'est quoi la différence entre Paul et moi, quoi? Bon, il ne faut pas se comparer, hein, mais c'est juste pour dire, ben voilà, Est-ce que Jésus fait pas la même chose avec moi? Et alors, dans l'évangile, on a une autre histoire, celle de Marthe. Celle de Marthe et de Marie. C'est amusant de voir comme, en fait, c'est le même principe, voyez. Ces deux lectures nous racontent l'histoire de deux personnes que Dieu a transformées. Et ça doit vraiment nous encourager en disant, ben voilà, s'il a pu transformer Paul, qui s'appelait Saul et qui était un taré, un ravageur, un massacreur. Bon, a priori, on n'est pas tous des psychopathes, quoi. Et donc, c'est possible aussi. Alors, Marthe, c'est évidemment plus soft. Mais Marthe, elle cherche à faire tout pour le Seigneur, quoi. Tout pour son Dieu. Exactement comme Saul faisait tout pour Adonai. Et il faut une intervention là aussi de Dieu pour lui dire, écoute, ma chérie, c'est bien ce que tu fais. Hein. Et vraiment, tu as raison. Mais tout ça passe, quoi. Et la seule chose qui passe pas, ce sont mes paroles. Et peut-être tu pourrais miser un peu de ce côté-là. Vous voyez, en syriaque, c'est intéressant le syriaque, parce que le syriaque, c'est donc ce qu'on peut appeler l'araméen chrétien. Hein, l'araméen est mort. On ne parle plus, langue morte. Le syriaque, bon, il est un petit peu parlé, bon, soi-disant, à Mahaloula, en Syrie. Bon, en fait, oui, c'est du syriaque, mais enfin, dire c'est la langue de Jésus, oui, il y a 2000 ans après. Hein, Jésus parlait l'araméen palestinien, l'araméen palestinien, il est mort. Donc il n'y en a plus. Donc les consonances ne sont pas toujours les mêmes, etc. Maintenant, les mots peuvent avoir un certain sens quand même. Et on sait notamment que les langues sémitiques ne font pas d'abstraction. Ni en hébreu, ni en syriaque, ni en arabe. Enfin, on n'a pas d'abstraction. L'abstraction est quelque chose de proprement grec. Or, la révélation nous a été transmise en grec pour le Nouveau Testament. Mais on sait que Jésus n'a pas pu dire certaines choses parce que les mots n'existaient pas dans sa langue. Et il se trouve qu'il y a deux choses dans cet évangile. Le premier, c'est... On nous dit pieusement, je crois que c'est ça, hein, Marthe reçut Jésus dans sa maison. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Alors en syriaque, il n'y a pas écrit ça. Hein. En syriaque, bon, c'est un peu une langue de base, hein, pour pas dire autre chose. Donc en syriaque, il y a écrit Marthe fit obstacle à Jésus avec sa maison. Tu viens chez moi ou bien tu viens chez moi, quoi. En fait, je te laisse le choix entre venir et venir. Vous voyez, dans l'année, quand on a cette lecture-là courante, à un autre endroit de l'année, je ne sais plus où, un dimanche peut-être, on a d'abord Abraham qui voit passer les trois hommes là, et qui leur dit, vous n'irez pas plus loin sans être passé chez moi. Ben, c'est l'hospitalité orientale. On va se mettre en quatre pour recevoir quelqu'un, même si on n'a rien. Bon, eux, ils ont des moyens, Marthe et Marie, mais... Donc voilà, d'abord, Marthe le contraint à venir. Donc c'est normal qu'elle fasse tout ce service, puisqu'elle l'a contraint à venir. Et puis la deuxième chose, c'est quand Jésus lui dit, Marthe, une seule chose est nécessaire. Bon, Jésus n'a pas pu dire ce mot-là. Alors c'est un peu embêtant de dire ça, parce que les pères de l'Église, notamment Saint Bernard, etc., commentent ce mot nécessaire. Mais nécessaire, ce n'est pas un mot sémitique. Ça n'existe pas. En syriaque, quand on a un mot, une abstraction, on ajoute une désinence à la fin pour dire attention, ce mot-là, il n'existe pas, mais il va nous rendre service. Exemple, un, ça se dit raz. Raz, en syriaque, ça veut dire un. Unité, c'est une abstraction. Alors, unité, on va rajouter un suffixe qui s'appelle outha. Et ça va donc donner razoutha, avec un th. Voilà. Razoutha, on se dit, ah ouais, d'accord, c'est un mot qui n'existe pas, mais il nous rend service. Bon. Donc l'unité, ça n'existe pas. La nécessité, ça n'existe pas. Et Jésus, en syriaque, qui ne dit pas, d'après ce qu'on a comme version, qui sont plus ou moins rétroversions du reste, il ne dit pas une seule chose est nécessaire, il dit une seule chose est à rechercher. Alors vous allez peut-être dire, ouais, rechercher, nécessaire. Bon. Non, 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 non. Une seule chose est à rechercher. Ça veut dire que ce que fait Marthe, ce n'est pas à rechercher. Ça va de soi. Quand on accueille quelqu'un, on le sert. Ce que fait Marie, c'est une démarche supplémentaire. Elle, voilà, elle va rechercher quelque chose qui n'allait pas tout à fait de soi. La preuve, c'est que Marthe n'y a même pas pensé. Bon, voilà, je ressors du du syriaque. Mais donc on peut contempler cette bonté de Dieu, sa douceur, son regard tellement bon sur Marthe et sur Marie et sur Paul et sur Saul, en disant mais la générosité de cet homme, il faut que je la... il faut juste, il s'est juste trompé de chemin. Comment il s'appelle? Peggy qui dit ça. Hein. Au sujet du pécheur, la brebis égarée que le sauveur prend sur ses épaules. Elle s'était trompée de chemin, ça arrive au plus grand saint, dit-il. Bon voilà, c'est donc... on peut se tromper. Mais alors trompons-nous bien, quoi. Comment dire, j'allais dire de bonne foi. Voilà. Jésus leur apprend que ce qui compte, c'est de recevoir tout de Dieu d'abord. Vous voyez, l'autre chose qui est importante dans la première lecture, c'est le temps que Paul passe à aller apprendre la parole de Dieu. Alors, Jousse, Marcel Jousse, qui est un jésuite, qui a été assez méconnu chez les jésuites, hein, il était plutôt mis au banc parce qu'il disait des choses qu'il fallait pas dire. Et donc Jousse s'est beaucoup intéressé à la récitation, la transmission orale des évangiles. Et là, ce passage-là sert à dire aussi en Galate à quel point il lui a fallu du temps pour aller, voilà, il est parti, il est allé en Arabie apprendre la parole de Dieu. Il a mis 3 ans à apprendre parce qu'on apprenait tout par cœur à l'époque. Puis il revient à Damas, et puis il va voir un apôtre, puis il se fait réciter, et puis finalement il reste 15 jours avec lui. Oui, c'est bon, t'as bien compris, t'as bien mémorisé. Bon, évidemment, c'est pas écrit ce que je vous dis, hein, mais c'est important de voir le temps, la place du temps dans nos vies, quoi. Non, il faut que je change. Attends, attends. Tu as eu la grâce de voir qu'il fallait que tu changes. Maintenant, on va mettre les choses en place tranquillement. Dieu a le temps, hein. Nous, on ne l'a pas, mais. Dieu a le temps. Donc voilà, donc progressivement que Dieu puisse prendre la première place. Et c'est ce qu'on voit chez Paul. Et c'est après avoir passé longtemps qu'il va finalement prêcher l'évangile. C'est pas immédiatement, là, toc, je viens d'être converti, je vais raconter quoi? Je sais pas, je sais même pas de quoi je parle. Et au fond, c'est la même idée qui est chez Marthe et Marie dans cet évangile. Commence par écouter et te laisser imprégner de la parole de Dieu. Elle va produire un fruit. La parole de Dieu est performante. Hein? Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Bon, il y a quelques jours, j'avais cité l'histoire du prisonnier chinois, là, il y a peut-être quelques semaines, qui n'avait jamais entendu parler de Dieu, et puis qui un jour entend cette parole, je suis doux et humble de cœur, mon fardeau est léger, et mon joug est doux. Et il sait même pas, il demande à sa mère, mais qui est-ce qui a dit cette parole-là? Elle m'a fait un bien de fou, quoi. Voilà. Donc la parole de Dieu, hein, c'est la première chose. Et c'est pas toujours très drôle de lire l'écriture. Mais on est en présence de Dieu, quoi. C'est quand même un truc. Hein. Donc voilà. Pouvons méditer dans nos vies la place que Dieu a essayé de prendre. Et est-ce que nous le laissons plus souvent à la porte ou est-ce que nous consentons à être un peu déstabilisés, voire beaucoup, parce que Paul, il s'est quand même pété la gueule, et on est même devenu aveugle. Hein. Sa conversion, c'est pas une blague, quoi. Bon, on ne dit pas que Marthe, elle ait laissé tomber le plat quand Jésus lui a dit une seule chose est nécessaire, c'est peut-être ce qui est arrivé d'ailleurs. Mais enfin, voilà, vous voyez, il a fallu toute cette conversion, et on voit ensuite Marthe dans l'évangile, comment elle a quand même changé. Eh bien, que cette parole nous retourne proprement le sens du mot teshuva, conversion, en hébreu.